Un million de chasseurs en France, un million revendiqués par la Fédération nationale de la chasse en cette année électorale. Ils ont des soutiens et des détracteurs dans à peu près tous les partis politiques. Le soutien le plus ferme chez les LR peut-être, les détracteurs les plus actifs au sein d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise. Et c'est le candidat écologiste Yannick Jadot qui a relancé le débat après deux accidents de chasse en cet automne, un mortel notamment, un automobiliste tué par une balle perdue, interdire la chasse pendant les week-ends et vacances scolaires. Depuis le tout début des années 2000, on recense plus de 3400 accidents de chasse, 19 morts par an en moyenne. Il n'y a pas de risque zéro, répond le président de la Fédération des chasseurs. Il oriente le débat autrement en proposant que les chasseurs soient davantage associés à la politique environnementale en forêt. Alors la chasse, plaisir de tradition ou plaisir mortifère? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Notre invité est le président de la Fédération Nationale de la Chasse, Willy Schren. Bonjour monsieur.
Bonjour.
C'est un sujet très polémique, vous le savez. Une partie des gens, très probablement parmi ceux qui nous écoutent, ne comprennent pas le plaisir que prennent les chasseurs dans leur activité. Dites-nous, pourquoi vous chassez? Quel plaisir, quelle satisfaction vous y trouvez?
Le plaisir effectivement de chasser, alors c'est très global, hein. Il y a les liens sociaux, il y a le partage, il y a la transmission, et il y a ce rapport avec les animaux et le vivant qui, je dirais, le plus vieux rapport que nous ayons, d'ailleurs le plus sain, le plus normal. Ouais. Celui qui a fait que l'espèce humaine, à un moment, ça a dû s'élever effectivement au-dessus des autres espèces, et cette convoitise du vivant aussi, qu'il soit animal ou végétal. Voilà. Évidemment, les temps ont changé, on ne chasse plus spécifiquement pour se nourrir, mais on a gardé effectivement dans notre ADN cette passion, cette envie et ce besoin de chasser des animaux. Bon, voilà, tout en ayant tout à fait en tête et en conscience que nous ne le faisons plus dans le but uniquement de se nourrir. Il y a une forme de plaisir évidemment qui nous paraît extrêmement naturelle dans la pratique de la chasse.
Vous avez présidé la Fédération du Pas-de-Calais en 2010, puis la Fédération Nationale depuis 2016. Est-ce que vous avez l'impression, Willy Schren, que l'écologie, l'attention à la nature, le besoin de nature révélé par le confinement prenant de plus en plus d'importance, le regard sur la chasse et les chasseurs s'est durci au fil des années?
Il a changé, c'est une évidence, il a changé. Peut-être que nous n'avons d'ailleurs pas su anticiper ce changement et on ne l'a peut-être pas tout à fait compris à un moment, probablement. On s'est beaucoup caché, on a préféré, je dirais le trou de l'autruche plutôt que d'affronter les réalités de notre passion et surtout de l'expliquer. Ouais. Moi je dis souvent, si la chasse avait été correctement expliquée, j'aurais même pas la défendre aujourd'hui. Ouais. Bon, elle est perçue souvent comme quelque chose de cruel, de barbare. Elle est perçue aussi par beaucoup de gens comme quelque chose qui fait peur. Voilà. Et on a effectivement aujourd'hui ça à gérer. Alors quand en plus vous avez des gens qui jettent un petit peu d'huile sur le feu à des fins politiques et juste avant une élection présidentielle, bon ben vous avez tout, je dirais toute l'équation de quelque chose qui peut faire une polémique persistante et permanente jusqu'au premier tour de la présidentielle.
Et vous dites, vous n'avez pas venu senti monter au fond le mouvement de ceux qui regardent plus durement qu'auparavant la chasse. Vous l'avez pas vu venir au fil des années?
On l'a pas vu venir pour une raison toute simple, parce que la chasse se passe sur des territoires privés à 85% pour la forêt et pratiquement à 100% pour le territoire agricole. Donc à partir de là, je pense que mes prédécesseurs, je leur en veux pas du tout, d'avoir imaginé qu'on pouvait pas remettre en cause quelque chose qui était directement lié avec, je dirais, au lien, au droit de propriété. Mmh. Mais bon, les gens l'entendent pas comme ça. Puis est arrivé ensuite le discours de dire non, mais la nature, c'est à tout le monde. Alors, on sait bien qu'elle est pas à tout le monde. Il y a de la propriété privée derrière tout ça. Mais à force de le répéter, c'est aussi entrer dans les mœurs des gens de dire non, moi, je prends ma voiture le dimanche après-midi, je fais 50 ou 100 kilomètres, je m'arrête et tout ce qui est devant moi est à moi. Et je peux en jouir et m'y promener. Bon, c'est pas tout à fait comme ça la réalité. Néanmoins, c'est ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui.
La question du partage de la nature. Question de Gérard, au standard. Bonjour, Gérard.
Bonjour.
Je précise que vous êtes ingénieur en énergie solaire, mais ça n'a pas de lien direct avec votre question. Je vous écoute.
Oui, moi je propose peut-être un mi-chemin, couper la poire en deux. Mais pourquoi ne pas interdire la chasse le mercredi, le samedi et le dimanche, mais uniquement l'après-midi, pour pouvoir laisser les familles, les enfants librement l'après-midi. Les chasseurs, c'est surtout le matin quand même. Voilà.
On parlait à l'instant, Willy Schren, de partage de la nature. Est-ce que vous êtes prêt à réduire les temps de chasse pour assurer un partage, pour que ceux qui veulent se promener et qui craignent les chasseurs puissent le faire en toute tranquillité?
Non. On peut discuter de tout. Le dialogue est ouvert. Bon, il faut quand
c'est
même
déjà un point.
Recadrer un petit peu ce qui vient d'être dit, et j'entends ce que dit Gérard, mais on a déjà un partage de la nature. La chasse, c'est pas toute l'année. Parce que ce qui pose problème, et ce qui je dirais, génère des conflits d'usage entre chasseurs et non-chasseurs, c'est surtout la partie battue, qui a lieu en période automnale et hivernale. C'est-à-dire, grosso modo, on va dire 4 à 5 mois par an. Mmh. Donc il y a déjà, dans le temps, un partage de la nature. toute l'autre période, il n'y a pas de chasseurs. Ou s'il y en a, c'est des gens à l'approche et vous ne le voyez même pas. Et il n'y a jamais eu un accident ni un problème avec ce genre de chasse. C'est bien l'abattu qui génère effectivement des conflits d'usage. Donc il y a déjà un partage. Ensuite, on partage le domaine public. C'est extrêmement réglementé, que ce soit les forêts domaniales, une partie des forêts communales. Il y a des jours de chasse qui sont donnés, ils sont connus à l'avance. Ils ne peuvent être supérieurs qu'à un, souvent par semaine. Et quand on est dans le périurbain, la chasse est déjà interdite le week-end ou le mercredi.
Donc ce que vous nous dites, c'est que le cadre existe, c'est pas la peine de le rendre plus strict pour les chasseurs. Quand Yannick Jadot propose d'interdire le week-end ou pendant les vacances scolaires, alors c'est une proposition haute, on va dire, mais vous dites on veut pas que le cadre bouge, on veut pas réduire.
Je dis pas qu'on veut pas que le cadre bouge, on peut discuter de tout. Je dis qu'il y a quand même un malaise profond à discuter de quelque chose qui vous appartient. Vous êtes chez vous, vous chassez dans votre forêt, c'est votre propriété. On est quand même en train de vous expliquer dans un pays qui a inventé les libertés,
oui,
le concept des libertés individuelles, que chez vous, vous n'avez plus le droit. Donc à partir de là, on fait quoi ?
On vous dira ça qu'une balle perdue, que vous soyez chez vous ou pas, ça reste une balle perdue.
Peut-être, mais alors, allez chez vous, je dirais à la rigueur, nous on se bat pour la sécurité, ça c'est notre sujet. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre forêt, dans votre bien, voilà. Depuis quand on devrait vous interdire d'exercer votre passion chez vous et d'ouvrir votre propriété privée, même si elle n'est pas clôturée ou si elle n'est pas entourée de grillage, de l'ouvrir aux gens qui voudraient en jouir et l'utiliser pour leur plaisir. Il y a quand même un petit problème de fond. Ou alors on est retourné effectivement, je dirais, sous Léon Trotsky, quoi. Il y a un vrai problème.
Et quand il y a des accidents, alors vous dites le risque zéro n'existe pas, ok, propriété privée, mais encore une fois, quand il y a une balle perdue et qu'il y a un automobiliste qui passe, comme ça s'est passé récemment, qui prend une balle et qui y reste, il n'y a pas que la question du droit de propriété et du droit de la liberté à chasser.
Tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a beaucoup travaillé sur ces problématiques de sécurité. On peut toujours annoncer des chiffres importants. Regardez quand même la courbe et la baisse de ces accidents.
Alors c'est vrai.
Qui sont constants et qui sont de plus en plus marqués.
En gros, pour rappeler les chiffres, c'est les chiffres de l'Office de la Biodiversité. Depuis 2000, 150 accidents de chasse par an, 19 morts par an. C'est vrai, ça fait beaucoup.
Oui.
Mais c'est vrai, la tendance est à diminuer ces 4-5 dernières années.
Oui.
Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures, Willy Schren, de sécurité à prendre et lesquelles ?
Mais on les a prises dans la loi de,
il y en a pas de nouvelles.
De 2019. Nous avons pris des nouvelles mesures, puisque maintenant on va former les chasseurs tout au long de leur vie sur la sécurité. Et ils reviendront à échéance régulière dans des formations. Évidemment, on a aussi mis en place des systèmes qui nous permettent de retirer un permis, ce qu'on ne peut pas faire avant. Pas quand on a fait un accident, quand on a provoqué un accident, mais quand on a une conduite qui n'est pas adaptée. Maintenant, les fédérations ont ces pouvoirs. On s'est quand même doté depuis 2 ans de plein de choses qui vont de toute façon nous amener à faire encore baisser ces accidents. Après, il faut relativiser. Ce sont des accidents dramatiques, mais j'ai vu les chiffres il y a quelques jours, des piétons qui sont écrasés sur la route, qui ont été tués. C'est quand même pas loin de 500 personnes. Il y en a quand même plus de la moitié qui ont été écrasés sur des passages piétons. Je ne comprends pas non plus qu'on médiatise autant ces accidents qui sont toujours des accidents.
On compare des contextes différents, des choses différentes.
Une voiture mal utilisée, c'est comme une arme de chasse mal utilisée. Ça fait un mort au bout. Donc c'est exactement la même chose. Comme une paire de skis mal utilisée en bas des pistes, ça fait un mort au bout aussi. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Pourquoi on traite le monde de la chasse comme ça ? Parce que, politiquement, il y a des gens qui en ont fait leur emblème de combat. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à ces extrêmes, à cette violence et à cette haine permanente que nous devons essuyer sur les territoires.
Et politiquement, il y a aussi beaucoup de gens qui vous défendent. Vous êtes tranquille. Vous savez qu'une proposition du type de Yannick Jadot, une année électorale, elle ne passera jamais.
De toute façon, non mais elle n'est pas censée. Elle est stupide, cette proposition. D'ailleurs,
Ce que vous dites, ça c'est votre avis à vous.
Je pense aussi avoir raison en le disant, sincèrement. Dans le fond, autant proposer la fin de la chasse. Comment voulez-vous, les gens qui vont à la chasse le week-end sont quand même des gens qui travaillent. Voilà, je reparle même pas du droit de propriété. Ils travaillent toute la semaine, ils vont à la chasse le dimanche. Dans ce cas-là, j'entends ce que dit Yannick Jadot. Et je vois comment il construit effectivement sa campagne politique en montant les gens les uns contre les autres.
Oui, ça correspond aussi à une sensibilité de beaucoup de personnes.
Une sensibilité qui est facile à entretenir, jouer sur l'empathie des gens. Sauf que quand il y aura plus chasseurs, on va faire comment ? Mais rassurez-vous, on est en train de faire une étude qui va bientôt sortir et qui calculera ce que ça coûtera à chaque Français le jour où il n'y aura plus de chasse. Donc le jour où Yannick Jadot aura raison, ça va coûter beaucoup d'argent.
Et elle dira quoi ? C'est-à-dire le coût le jour où il n'y aura plus de chasse ?
Parce que si on enlève la chasse, les vacances et le week-end, donc on n'y a plus de chasse.
Ouais.
On va la faire courte, hein.
Ouais.
Il n'y a plus de chasse, voilà. Comment on va gérer ? Parce que nous, on représente quand même des milliards d'euros. Alors pas en besoin économique, il y a l'économie de la chasse, on la connaît, mais il y a aussi le travail écosystémique des chasseurs. C'est-à-dire, quand on pose sa carabine ou son fusil, faut quand même savoir qu'on apporte 3 milliards d'euros à la biodiversité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État.
Comment ?
C'est le BIP.
Comment ?
Par toutes nos actions, nettoyage de la nature, entretien des forêts, des haies, des zones humides, on replante on replante des arbres. Faut juste avoir... Alors, de notre faute, quand j'ai dit on n'a pas bien expliqué... je peux vous assurer qu'on n'a vraiment pas bien expliqué. Parce que quand on met tout ça bout à bout, c'est impressionnant. Ça fait 3 milliards d'euros. Et si on devait, effectivement, demain arrêter la chasse...
Je vous laisse le chiffre, hein, je ne l'ai pas...
Ah mais vous pouvez le regarder, exactement, c'est 2,94 milliards, voilà, écosystémique, donc effectivement d'apport à la biodiversité. Ça, c'est les chiffres de la chasse. Qui peut se prévaloir d'un tel chiffre? Sûrement pas des gens qui ont des grandes idées, même en période d'élection présidentielle.
Samedi, dans l'Ariège, Willy Schrein, un chasseur s'est trouvé face à une ours avec ses petits, oui. Morsure, il l'a tué. Il y a une soixantaine d'ours dans les Pyrénées. Oui. Il n'y a pas de cohabitation possible. Est-ce qu'on reste dans cette situation?
Non, moi je pense qu'il y a une possibilité de cohabitation. Bon, là encore une fois, on va se baser sur un accident. Voilà. Et il y a des gens un peu agressifs et il y a des fois des ours un peu plus agressifs. Alors le contexte, quand on est une ours femelle et qu'on a deux oursons, on sait que n'importe quel animal va défendre ses petits. Bon, la présence d'un homme qui était là posté, je veux dire, on n'était pas dans l'action de chasse. L'ours n'était pas poursuivi par des chiens. C'était pas ça du tout. Bon, il y a eu ce contact, ce conflit, on va dire, d'usage entre cet ours qui était sur son territoire, ce chasseur qui avait aussi la légitimité d'y être. Et 100 000 fois, l'ours va repartir. La 1 001e fois, l'ours a attaqué.
Donc vous dites aux chasseurs de l'Ariège, oui, une cohabitation est possible, parce que depuis cet accident, on entend des chasseurs dire on veut plus des ours.
Ce qui est sûr,
c'est important si vous leur dites ça.
En ce qui me concerne,
vous leur disiez ça.
Si je dois choisir entre l'ours et l'espèce humaine, je choisirais toujours l'ours. Je choisirais le chasseur, effectivement, ou l'éleveur, ou le berger.
Là, c'est pas la question. Ce que vous dites, il y a une soixantaine d'ours dans les Pyrénées. Oui, c'est possible.
Alors après, il va falloir discuter de ce nombre. Parce qu'il est en constante augmentation. Il y a déjà eu deux problèmes avant ce problème avec le chasseur, avec un randonneur et un berger.
En août.
Donc, on voit bien qu'à un moment, on n'est pas dans le parc de Yellowstone aux États-Unis, où on a mis des loups, des ours, des tas de choses. Là, on est quand même dans un endroit aujourd'hui, quoi qu'on en dise, la France est devenue relativement périurbaine. Même s'il reste des zones montagneuses un peu plus désertiques. Le problème, il est là. Donc, à un moment, 60 ours, c'est une chose. Quand ils seront 200, comment on va faire? Faut-il attendre qu'il y ait un gamin qui se fasse bouffer au coin d'un chemin forestier? Parce que ça va arriver. Et plus vite qu'on ne le pense.
Allez, avant d'entendre Mathieu, deux témoignages sur l'appli qui vont vous agacer. David, je suis propriétaire forestier. Les chasseurs n'ont pas compris les limites des propriétés. Je reçois tout le temps des balles perdues. Claude, j'ai un jardin en bordure de route. Les chasseurs tirent dans mon jardin. Les chasseurs ne respectent rien.
Alors, il y a sûrement des gens qui font des erreurs. Et croyez bien que je suis le premier à les condamner. Et quand il y a des problèmes comme ça, faut jamais hésiter à appeler la Fédération des chasseurs. Nous, on est là pour gérer. S'il y a des éléments perturbateurs ou des gens qui se conduisent mal, je ne peux l'accepter, je ne peux le tolérer. Et les sanctions sont rapides. Il faut juste nous le rapporter et nous le dire.
Mathieu, au standard, vous nous appelez du Roussillon. Bonjour Mathieu. De Roussillon,
oui,
de Roussillon dans le Vaucluse.
J'appelle pas du Roussillon,
ouais, voilà.
J'appelle du Vaucluse.
Absolument.
Donc, je tenais à vous interpeller. Et surtout Monsieur Willy, je ne connais pas son nom exactement.
Willy Schrein.
Mais c'est surtout les sangliers, bordel de merde. On nous casse les.
Oh non, on va essayer d'être correct à l'antenne, s'il vous plaît, monsieur.
Oui. Donc on nous embête avec le loup. Le loup, il y en a 400 en France à peu près, et il y a 500 000 sangliers qui font des dégâts considérables, qui ont été introduits par les chasseurs et qui sont plus gérés par les chasseurs parce qu'ils sont trop âgés. Les chasseurs sont trop âgés, ils sont plus assez nombreux pour arriver à gérer ça.
Ou trop gros pour courir après, peut-être.
Ouais, ou trop gros pour courir après.
Je pensais à moi, hein, mais...
Peu importe.
Quelle est votre question?
Eh bien, en tout cas, ils sont là. Nous, moi, je suis viticulteur. J'ai des dégâts considérables sur mes vignes. Toutes les années, je dois clôturer 24 hectares. Ça
et donc, vous dites, est-ce que les chasseurs peuvent faire plus pour les battues de sangliers? Willy Schrein.
Bon, l'important, c'est d'abord de recadrer un tout petit peu ce qu'a dit ce monsieur. J'entends bien, il y a une énorme erreur. Dire que c'est les chasseurs qui ont lâché les sangliers, moi je veux bien, mais enfin là on est quand même dans les légendes urbaines, il faut tous se calmer. Parce que le problème sanglier, il est mondial. Si c'était que la France qui aurait lâché les sangliers, je veux bien. Comment ça se fait qu'aux États-Unis l'année passée, ça a coûté 1,5 milliard de dollars de dégâts aux États-Unis? Ils chassent pas le sanglier, ça les intéresse pas les chasseurs. Il y en a encore plus qu'ici. Ça c'est la réalité. Donc il y en a pas 500 000, il y en a plutôt 2 millions puisqu'on en tue un petit million. Voilà, on fait tout ce qu'on peut. Le problème aussi, c'est qu'on est confronté aujourd'hui, on le disait, à des zones extrêmement périurbaines. On a beaucoup construit en France en campagne, on a beaucoup effectivement étendu les zones pavillonnaires en périphérie des villes. Il y a aujourd'hui à peu près un quart du territoire national qu'on ne peut pas chasser. Et pratiquement un tiers qu'on ne peut pas ou presque plus chasser. C'est un vrai problème. Les sangliers sont des opportunistes incroyables. Il n'y a plus d'hiver. Ils ont 10 jeunes par printemps. Et ils se débrouillent très bien entre les maisons pour se cacher dans un petit roncier. C'est un vrai problème.
Merci Willy Schrein d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.